Shalom Bourgogne.
Bonjour Charlotte.
Bonjour Marie. Aujourd'hui, en ces périodes de fêtes, on évoque la magie de Noël en littérature. Donc pour les textes littéraires de Noël, on a beaucoup de récits courts, de nouvelles, de contes, et plutôt en littérature anglaise. Voilà, Marie va vous parler d'un conte anglais, et moi je vous parlerai donc du conte d'Alexandre Dumas, Casse-Noisette.
Je passais plusieurs jours dans le désespoir, bataillant avec les fantômes de Dickens, d'Henry et d'autres maîtres de l'esprit de saison. Les seuls mots contes de Noël évoquaient pour moi des associations désagréables, des débordements hypocrites de bouillie et de mélasse. Dans les meilleurs cas, les contes de Noël n'étaient que rêves et désirs comblés, contes de fées pour adultes, et pour rien au monde, je ne m'autoriserais à écrire des choses pareilles. Et pourtant, comment pourrait-on envisager de raconter une histoire de Noël non sentimentale? Il y avait là une contradiction dans les termes, une impossibilité, une énigme totale. Autant essayer d'imaginer un cheval de course sans jambes, ou un moineau sans ailes. Je n'arrivais à rien. Le jeudi, je sortis faire une longue promenade avec l'espoir que le grand air m'éclaircirait les idées. Juste après-midi, je m'arrêtais chez le marchand de cigares pour me réapprovisionner, et j'y trouvai Aoji, comme toujours, derrière le comptoir. Il me demanda comment j'allais. Sans en avoir vraiment eu l'intention, je me mis à lui confier tous mes ennuis. « Un conte de Noël, me fit-il lorsque j'eus terminé ? C'est tout ? Si tu m'offres à déjeuner, mon ami, je te raconterai le plus beau conte de Noël que tu aies jamais entendu. Et je te garantis que c'est une histoire vraie, mot pour mot. »
Merci Marie pour cette lecture d'un extrait du conte de Noël d'O.G. Wren, de Paul Auster, paru en 1990 pour l'édition de Noël du New York Times. Il s'agit d'une nouvelle d'une quinzaine de pages que le journal commande à l'écrivain Paul Auster et dans laquelle ce dernier nous conte l'histoire d'O.G. Wren, vendeur de cigares à Brooklyn.
Oui, c'est ça. L'histoire de O.G. nous est racontée par un narrateur-écrivain qui ressemble en tout point à Paul Auster, puisqu'on lui a également demandé d'écrire une nouvelle pour Noël, donc celle-ci, et il ne s'en sort pas. Il ne veut pas faire un conte de Noël type, entre guillemets. Paul Auster lui-même a dit dans un entretien que tout était sans dessus-dessous dans ce conte-là. Et donc, notre narrateur se tourne vers le personnage d'Aoji, tout comme notre écrivain. Aoji va lui raconter ce qui lui est apparemment arrivé un jour de Noël.
Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle exactement pour que O.G. Wren se dise que c'est important de raconter ça dans le New York Times?
Bah, rapidement, c'est un enfant qui va... O.G. a donc un magasin de cigares. Et un enfant va venir voler dans son magasin et il va laisser tomber son portefeuille en prenant la fuite. Et O.G. ne l'a jamais reporté à la police. Et un jour de Noël, alors qu'il n'a rien à faire, il va se dire, il va voir le portefeuille et se dire « Ah, je vais lui rendre ». Et voilà, bon, c'est le début de l'histoire. Après, c'est très court, comme tu l'as dit, c'est une quinzaine de pages. Donc l'histoire est assez rapide.
L'enfant qui vole dans le magasin, donc c'est pas pendant la période de Noël, mais au moment de Noël, O.G. se décide à le retrouver à ce moment-là. Donc.
Oui, c'est ça. Ouais. En fait, le personnage explique que d'habitude, il fête Noël avec son patron, mais que là, il y a un petit problème. Et comme il se sent seul, il s'est dit, bon, c'est le moment, on va rendre le portefeuille, un petit acte de Noël peut-être. Mais voilà, le personnage est pas vraiment dans l'esprit de Noël, et même la nouvelle en soi ne fait pas conte de Noël dont on a l'habitude. C'est un personnage assez atypique, il est photographe notamment, il y a une dimension très philosophique dans le conte aussi. Le personnage, oui, a des réflexions, c'est très léger, puisque évidemment il y a peu de pages pour développer ça, mais ça me donne envie de raconter la fin, mais je vais pas faire ça bien sûr, mais c'est très très bien, il faut aller la lire.
Et donc... En quoi on va retrouver les choses qu'on a l'habitude de voir à Noël, par exemple, que ce soit la magie de Noël, que ce soit une fin avec une morale comme quoi le plus important à Noël, c'est d'être bien entouré, par exemple.
C'est compliqué de répondre sans révéler une partie. D'accord, okay. Après, Auster l'a vraiment dit, c'est pas un conte de Noël où tout est beau, où il y a la magie, etc. C'était pas ce qu'il voulait faire, puisque c'est pas ce dont il a l'habitude dans ce qu'il écrit. Mais en même temps, le New York Times lui a demandé une nouvelle en sachant très bien qu'il n'écrit pas ce genre de choses. Mais pour donner peut-être un élément de réponse, c'est que quand il va rendre le portefeuille, c'est compliqué sans en dire, mais il va y avoir un petit repas de Noël, un dernier repas de Noël, et bon, c'est pas magique, c'est pas féerique, mais c'est très touchant. En tout cas, moi ça m'a touchée, et je n'ai pas vu le film, mais il a été adapté. Mais la nouvelle a une place, je pense, moindre dans le film et n'a aucun rapport, le film n'a aucun rapport avec Noël, si j'ai bien compris. C'est Paul Auster aussi qui a écrit le scénario, d'ailleurs, et je l'ai lu dans l'édition Babel. Le scénario est donné à lire, puisque l'écrivain l'a lui-même écrit. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir la différence entre la manière dont on écrit un conte et la manière dont on écrit un scénario.
Et il y a quoi comme principale différence donc entre le conte et le scénario, justement, en termes d'écriture ?
Les personnages ne sont pas du tout développés de la même manière. Donc pour ceux qui aiment la nouvelle et qui veulent en savoir plus des personnages, c'est intéressant. Mmh. Après, c'est vrai qu'on ne s'imagine pas du tout. Enfin, moi, je ne me suis pas du tout imaginé les personnages de cette manière-là, puisque comme on a peu de lignes dans la nouvelle, on peut réfléchir plus de notre côté. Mmh. Et après, je dirais la grosse différence aussi, c'est la manière dont sont décrites les scènes, puisque on a des descriptions qui sont faites pour le cinéma, qui sont dramatiques. Oui. Et c'est pas du tout un récit.
Et avec ces exclamations que leur cœur gonflé de joie ne leur permettait pas de développer davantage, les quatre princesses conduisirent Marie et Casse-Noisette dans l'intérieur du palais. Les forcèrent à s'asseoir sur de charmants petits canapés en bois de cèdre du Brésil, parsemés de fleurs d'or, disant qu'elles voulaient elles-mêmes préparer leur repas. En conséquence, elles allèrent chercher une quantité de petits vases et de petites écuelles, de la plus fine porcelaine du Japon, des cuillères, des couteaux, des fourchettes, des casseroles et autres ustensiles de cuisine, tout en or et en argent. Apportèrent les plus beaux fruits et les plus délicieuses sucreries que Marie eût jamais vues. Et commencèrent à se trémousser de telle façon que Marie vit bien que les princesses de Confiturembourg s'étendaient merveilleusement à faire la cuisine.
Charlotte vient vous lire un extrait du conte Casse-Noisette d'Alexandre Dumas, publié en 1844. Donc pendant une nuit de Noël, les enfants des barons de Nuremberg organisent une grande réception durant laquelle leurs enfants, Marie et Fritz, seront gâtés. Marie reçoit de la part de son parrain un beau casse-noisette, qui a la particularité de s'animer pendant la nuit aux côtés des autres éléments du sapin. Et elle va assister alors à son affrontement avec le roi des souris et tomber amoureuse de lui.
À l'origine, ce conte de Noël vient d'un auteur allemand, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Donc l'adaptation de Dumas, elle est quand même peu fidèle au conte d'origine. Et c'est pourtant la version qu'on connaît le plus aujourd'hui. C'est d'ailleurs celle qui est reprise le plus généralement dans les adaptations. Par ailleurs, le ballet féerie de Tchaïkovski est inspiré donc de ce conte.
C'est quoi le conte original dans ce cas-là, puisque le conte d'origine dont tu parles, c'est l'histoire est différent quoi ?
L'histoire elle diffère déjà par rapport au fait que les personnages vont être moins gâtés en fait, dans le sens où ce serait pas un Noël aussi luxueux que dans le conte d'Alexandre Dumas.
OK.
Et voilà, la principale différence, elle va résider là-dedans. Et surtout, je pense que l'élément géopolitique, le roi des souris, par exemple, est beaucoup plus mis en avant dans le conte d'Hoffmann que dans le conte de Dumas.
Okay.
Alors qu'ici, le roi des souris... de la même manière que Paul Auster, Alexandre Dumas, il se met en scène en tant que conteur, en tant que héros presque. Il crée un effet de mise en abîme, mais en se plaçant lui-même à une réception de Noël, quand sa fille et d'autres enfants lui réclament un conte. Il n'a pas écrit d'histoire de Noël avant ce moment-là. Et donc, emprunte ce conte à Hoffmann, en précisant bien, pendant la réception, il n'est pas de moi. Et il est très déçu que les enfants insistent pour qu'il raconte quelque chose qui ne vient pas de lui-même. Donc le narrateur, c'est Alexandre Dumas lui-même, il est personnage de son histoire en tant que conteur. Par ailleurs, ça pourrait coïncider avec notre émission sur l'autobiographie, puisque il s'agirait en partie d'une autobiographie, puisque on le sait, Alexandre Dumas est un excellent conteur. Mmh. C'est assez sympathique de le revoir ici dans ce rôle de héros. Et donc, on a un espèce de thème sur les narrateurs-conteurs.
Oui.
Et par ailleurs, cet effet, ça a créé un lien entre réel et fiction, puisque le conte va jouer sur les mêmes ressorts. Les parents de Marie ne la croient pas quand elle raconte toutes ces aventures qui lui arrivent pendant la nuit avec son casse-noisette, avec le prince Nathanaël.
Et donc, qu'est-ce qui reprend l'esprit de Noël ? Qu'est-ce qui plaît dans ce livre ?
Alors déjà, on a quand même quelque chose d'assez magique, un thème qui a souvent repris, qui est l'animation de nos jouets, l'animation de nos compagnons. Et donc, on a beaucoup de choses qui peuvent plaire, puisqu'on a des descriptions de maisons de poupées, des soldats de plomb, on a quand même vraiment beaucoup d'action aussi. avec des personnages stéréotypés qui plaisent aux enfants généralement, des souverains bourgeois et despotiques, un héros chevaleresque, une héroïne naïve, un parrain, donc le baron Drosselmeyer, un peu mystique, et une fin heureuse avec un mariage avec le héros et une fille du réel. Aussi, j'ai noté dans les choses qui peuvent plaire aux enfants, le fait que les souris parlent. Et ça, c'est quand même un thème que les enfants apprécient généralement, les animaux qui parlent, les animaux qui s'expriment, qui ont des envies particulières, par exemple, renverser le royaume.
L'histoire est un peu enfantine ou elle se lit
Je pense que l'histoire, elle se lit pour tout le monde dans le sens où elle est vraiment simple de compréhension, mais effectivement, elle est enfantine. C'est un conte pour enfants, c'est un conte, d'ailleurs, conté à des enfants, tout simplement. Mais, il faut le dire, elle fait du bien à lire dans le sens où elle est légère, elle est... Il faut pas se prendre la tête quand on la lit. Effectivement, certaines choses peuvent nous heurter à une époque où on est très sensible sur certains sujets. Mais c'est vrai que si on arrive à se détacher de notre propre réalité et à se plonger dans cet univers, on peut avoir accès à quelque chose de vraiment magique et se laisser emporter par une belle lecture. De plus, je l'ai mis parce que je trouve ça assez intéressant, mais nos jouets sont quand même des amis pour la vie et les aventures qu'on vit avec eux, qu'on crée avec eux, peuvent nous sembler tout aussi réelles que les nuits vécues ou rêvées par Marie, selon le profil de lecteur que vous êtes, un lecteur qui se laisse imprégné par la magie ou un lecteur qui reste rationnel à cette lecture et qui se dit « ça ne peut pas exister, Marie est pleine d'inventivité ». De la même manière, Casse-Noisette a été adapté en ballet par Tchaïkovski, donc très joli ballet à voir.
Tu l'as vu ?
Ouais, je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir. Et j'ai même pu voir du coup des représentations de modern jazz du ballet, et donc c'est quand même vraiment sympa. Mais il a aussi été adapté au cinéma. En 2018, on peut penser à Casse-Noisette et les Quatre Royaumes, qui est un joli film, pareil, qui reprend cette magie de Noël, un monde vraiment mystique dans lequel on échappe complètement à la réalité. Et c'est assez joli. Et aussi, je l'ai noté parce que c'est rigolo, mais on a une adaptation de Barbie au monde de Casse-Noisette. Et c'est un film avec lequel on a pu grandir aussi, puisqu'il existe depuis 2001, donc ça fait longtemps.
Oui. C'est bien parce qu'on se retrouve avec deux textes qui ont les thèmes de Noël, mais qui correspondent un peu à différentes lectures, puisque pour ceux qui aiment vraiment se plonger dans l'univers de Noël, ces films-là, par exemple, reprennent bien ces éléments-là, et le conte de Dumas également. Et Paul Auster, bon, c'est plus... c'est différent, c'est moins imprégné de magie, mais c'est aussi quelque chose qui se lit très bien au moment de Noël, et ça fait plaisir à lire.
C'est vrai. Et donc, Marie, qu'as-tu prévu de lire pour ces prochains jours ?
Alors là, je suis en train de lire le dernier roman de Kamel Daoud, donc rien à voir. Il est très très bien.
Ah oui, bah moi aussi, je quitte un peu la féerie et la magie de Noël, puisqu'en ce moment, je suis en train de relire L'amant de Marguerite Duras.
Pourquoi tu as voulu le relire ?
J'ai la sensation d'avoir manqué certaines choses, en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est des lectures assez compliquées. Et oui, j'ai la sensation qu'il m'a manqué certaines clés de compréhension. Et...
Ok.
Je suis en train de rire.
C'est bien de relire ces livres.
Enfin, voilà, c'était l'éveil littéraire. Marie et Charlotte, à bientôt.
Shalom Bourgogne.